Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous retrouverons les jours heureux, avait dit Emmanuel Macron. C'était le 13 avril 2020, autant dire il y a un siècle. Et depuis, au rêve promis, s'était largement substitué le cauchemar quotidien de l'épidémie. Mais cette fois-ci, il semble bien qu'on en sorte pour de bon. Et c'est le Premier ministre, Jean Castex, qui s'en est réjoui tout à l'heure.
Mes chers concitoyens, je le dis, je le ressens, nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale.
La vie normale, ce sera la vie sans masque en extérieur et sans couvre-feu des dimanches. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On peut dire que c'est le titre principal dans l'actualité de ce 16 juin.
Oui, on ira dans un instant voir les toutes premières réactions à Bordeaux. Réaction aussi de médecins, l'épidémiologiste Philippe Amouyel sera notre invité. Dans ce journal également, ce coup de théâtre dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, sa mère, son mari et son beau-père sont ce soir en garde à vue. Et puis l'ex-compagnon de Delphine Douy est lui condamné à la perpétuité, une peine rarissime dans les affaires de féminicide.
Parmi les invités de ce numéro d'RTL Soir, Suzanne Lindon, qui sera avec nous à 18h35. Elle sort un tout premier film qu'elle a écrit, réalisé, dans lequel elle tient le personnage principal. Ça s'appelle 16 printemps. La météo, bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, ce sera un printemps orageux.
Exactement, et je rappelle qu'il y a 28 départements de l'Ouest en vigilance orange orage. Le Rhône est en vigilance orange canicule. Demain matin, ça restera gris et humide sur la Bretagne, la Normandie et dans le Sud-Ouest. Ailleurs, il fera beau. Et reprise de l'activité orageuse dans l'après-midi par l'Aquitaine en remontant vers l'Île-de-France. De fortes pluies et de la grêle et ça restera toujours beau à l'est. Juste une petite averse orageuse possible en montagne et des températures très contrastées de 18 à Brest à 36 à Strasbourg, 24 à Bordeaux, 31 à Paris.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et une fois n'est pas coutume, on commence donc avec la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur.
Fini le masque en extérieur. Et deuxième bonne nouvelle, cette mesure annoncée tout à l'heure par Jean Castex à l'issue du Conseil des ministres entrera en vigueur dès demain. Une libération pour beaucoup d'entre nous, qui plus est avec la chaleur de ces derniers jours. Illustration dans l'hypercentre de Bordeaux où vous êtes rendu, Philippe Demaria.
Oui, et les panneaux qui délimitent ce périmètre interdit au visage découvert sont encore en place. Alors, quand j'annonce la nouvelle, l'incrédulité se lit d'abord dans les yeux des passants.
Mais c'est vrai. C'est bien.
C'est génial, c'est super bien. C'est inattendu.
Ah oui, bonne nouvelle, ouais. Parce qu'il fait chaud.
Et le port du masque devient compliqué depuis quelques jours dans les rues d'une ville où les températures sont très largement supérieures à 30 degrés.
On est en train de visiter pour quelques jours et avec le masque, c'est quand même pénible, quoi.
Alors, bonheur, soulagement, mais plusieurs habitants me font une réponse inattendue, comme Frédéric et Alban.
Moi, je le garde, en extérieur, parce que ça ne me gêne pas de le porter. Je rentre dans un magasin, je sors, je revente, donc je le garde.
Dans les zones assez denses, type rue Sainte-Catherine à Bordeaux, je pense que c'est quand même important de le garder, surtout que je viens d'avoir un petit bébé, donc je veux faire attention.
Et chez les plus jeunes, là, la fin du couvre-feu dimanche soulève ce que l'on peut appeler un bel enthousiasme.
Plus du tout de couvre-feu ? C'est pas vrai. Ah bah, autre bonne nouvelle ! Tout est dingue. Ouais, ça permet de rester plus longtemps au resto et boire de verre plus longtemps. Ça change l'été, ce nouvel été. Ça libère aussi.
On n'aurait jamais cru qu'on aurait tous ce type de réaction, mais c'est bien vrai. Fin du masque à l'extérieur.
La dame qui dit je vais le garder quand même, elle est étonnante.
Oui,
hein, quand même.
Oui. Mais bon. Après c'est un choix, pourquoi pas. Absolument. C'est très bien. Fin aussi donc, on l'a dit, du couvre-feu à partir donc de lundi. C'était le reportage de Philippe Demaria à Bordeaux pour RTL. Alors attention tout de même, ce masque Odile Pouget, on va devoir le garder dans certains cas, à l'intérieur hein, bien sûr, mais pas seulement.
Absolument, le Premier ministre a même donné quelques exemples précis, les marchés, les files d'attente, les tribunes dans les stades, liste non exhaustive. En fait, le gouvernement compte sur le bon sens de chacun. On remet son masque à chaque fois que l'on se regroupe, que l'on fréquente des lieux où il y a du monde, des endroits où le fait de garder ses distances est difficile à respecter, aux arrêts de bus bondés par exemple, ou dans des rues commerçantes très fréquentées. Des arrêtés préfectoraux seront publiés dès demain. Un petit mystère subsiste. On ne sait pas pour l'instant si les écoliers, collégiens et lycéens vont pouvoir tomber le masque en cours de récréation. Ce n'est pas encore tranché. Alors c'est vrai que la situation sanitaire s'est très nettement améliorée et plus rapidement que prévu. 3200 contaminations par jour en moyenne sur la dernière semaine. Jamais depuis août dernier, on a connu un niveau de circulation du virus aussi bas. Moins de 2000 patients hospitalisés en réanimation et une épidémie qui recule partout. 80 89 départements ont aujourd'hui un taux d'incidence inférieur à 50 cas positifs pour 100 000 habitants.
Et donc, on a eu plus de bonnes nouvelles en 5 minutes qu'en 6 mois. Là. Merci Odile, Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Et nous sommes en ligne en direct avec Philippe Amouyel, le professeur Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonsoir et merci d'être avec nous, professeur Amouyel.
Bonsoir.
Alors, j'imagine que le citoyen que vous êtes est heureux comme nous tous, mais l'épidémiologiste, il en pense quoi ? Il est inquiet ou il est serein, Philippe Amouyel ?
Alors, il est serein et heureux, l'épidémiologiste également. Comme le disait Odile Pouget il y a quelques instants, on est dans une situation qu'on n'a pas connue depuis longtemps et qui survient dans un délai beaucoup plus rapide que ce qu'on espérait. On est tombé en moyenne à 40 cas pour 100 000 habitants de taux d'incidence hebdomadaire. Je vous rappelle que le seuil d'alerte est à 50, donc on est en dessous des seuils d'alerte. Et surtout, on est tombé à moins de 4 000 cas positifs par jour, hein, 3 200, entre 3 500 et 3 100. Pourquoi c'est important ? Parce que dans ces conditions, on peut faire une stratégie de tester, tracer et isoler qui est efficace et qui permet de contenir le variant et les évolutions épidémiques qu'on va avoir. Et on peut aussi faire ce que font les pays qui ont ces stratégies zéro Covid, c'est-à-dire du rétrotraçage. C'est-à-dire que quand on vous trace, on vous demande qui vous avez contacté. Quand on vous rétrotrace, on vous demande mais qui avez-vous rencontré, qui a pu vous contaminer.
En revanche, professeur, en intérieur, on est bien d'accord, on le garde ce masque.
Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que en extérieur, enfin, on décide d'un port raisonnable et raisonné du masque. En extérieur, le risque est extrêmement diminué, 10 fois moins qu'en intérieur. Et quand vous êtes tout seul à sortir votre chien le soir à 22h, qu'il n'y a personne autour de vous, porter un masque n'a pas de sens. Quand vous êtes sur une plage aérée, porter un masque n'a pas de sens non plus. Donc là, on en appelle au bon sens des Français pour dire, voilà, continuez à porter le masque en extérieur quand c'est nécessaire. Et c'est nécessaire quand vous êtes trop au contact, que votre tousse anti-Covid se met à vibrer, que vous allez dans un transport en commun. Là, oui. Sinon, pour le reste, un peu plus de liberté va faire du bien.
Professeur Amouyel, on a entendu le Premier ministre qui disait on y est presque, mais attention, restons vigilants, le match n'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour gagner vraiment ce match contre le Covid ?
Il reste deux choses. La première, c'est de continuer à se vacciner de manière importante pour atteindre cette fameuse immunité collective.
Ça y compris les ados, y compris les
plus fragiles qui... Oui, tout à fait. Vacciner les plus fragiles qui ne sont pas encore vaccinés, il y en a 20%, je vous rappelle, il faut aller les chercher, ceux-là. Et puis, étendre la population de manière à avoir la couverture la plus large. L'ensemble de la population adulte, si elle était vaccinée, c'est à peine 80% de la population française. Or, avec le variant britannique et le variant indien, le fameux variant Delta, plus contaminant, il faut aller un peu plus loin. Et pour aller un peu plus loin, il faut mobiliser d'autres classes de la population, et en particulier les adolescents.
Merci beaucoup, professeur Amouyel. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille.
Et autre assouplissement, les vieilles charrues. Vous savez, le festival des vieilles charrues annonce ce soir que l'événement se tiendra finalement bien debout et non assis. Ça, c'est encore une bonne nouvelle ce soir pour tous les festivaliers.
18h08, c'est RTL Soir et dans l'actualité, il y a ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard.
Cette infirmière qui s'est volatilisée en pleine nuit, laissant deux enfants en bas âge, c'était il y a 6 mois, jour pour jour. Eh bien, son mari a été interpellé aujourd'hui et il est ce soir en garde à vue, Patrick Tégéraud.
Oui, peu avant 8h ce matin, Cédric Jubilard a quitté sa maison inachevée pour aller travailler tranquillement. Et 3 heures plus tard, les gendarmes l'ont arrêté et placé en garde à vue. Dans la foulée, son beau-père, le compagnon de sa mère, dont il est très proche, a été placé en garde à vue également, ainsi que la mère de Cédric. Elle a quitté la gendarmerie d'Albi après une courte audition emmenée par les enquêteurs, vraisemblablement pour une perquisition. A noter que le domicile de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard a été perquisitionné en début d'après-midi. La compagne et la petite sœur de Cédric Jubilard sont en cours d'audition à la gendarmerie d'Albi. Cédric, lui, en a été extrait. On ne sait pas précisément dans quelle gendarmerie tarnaise se poursuit sa garde à vue. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il s'agit d'une véritable opération d'envergure, une sorte d'opération coup de poing. Les enquêteurs auraient noté des incohérences dans les déclarations de Cédric Jubilard à propos de son emploi du temps.
Patrick Tégéraud dans le Tarn pour RTL. À Bastia, à présent, le verdict au procès de l'assassinat de Delphine Douy. Bonsoir Anne Lehenaf, c'est vous qui couvrez ce procès pour RTL. Son ancien compagnon a été condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité.
Oui, c'est une peine lourde, inhabituelle, a tout de suite dit la présidente, alors que dans la salle, le public se retient d'applaudir et que les parents et le frère de Julie, eux, se mettent à pleurer. La cour a considéré que votre geste était prémédité, préparé, poursuit la présidente. Depuis, vous n'avez exprimé aucun regret, vous avez même menacé des proches de la victime. Il n'y a eu aucune remise en question, vous n'avez demandé pardon qu'à vos enfants. La cour a donc considéré qu'aucune autre peine que cette perpétuité assortie d'une sûreté de 22 ans ne pouvait être prononcée. L'accusé a également été déchu de son autorité parentale. Dans son box, comme depuis le début du procès, Bruno Garcia ne laisse passer aucune émotion. Son avocat avait pourtant tenté d'atténuer les choses un peu plus tôt en expliquant que la perpétuité c'était une sorte de peine de mort, une peine de haine et de vengeance. Son client a 10 jours pour faire appel.
Anne Le Hénaff en direct du palais de justice de Bastia pour RTL.
On marque une pause et dans un instant, on va aller rejoindre Thomas Pesquet, enfin d'une certaine manière, parce qu'il est de sortie, Thomas Pesquet, de sortie dans l'espace cet après-midi. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h12, la suite du journal Amandine Bégaud. Et au lendemain de leur victoire 1-0 hier face à l'Allemagne, on va le redire parce que ça fait plaisir,
oui.
Au lendemain de leur victoire 1-0 face à l'Allemagne, les Bleus, l'équipe de France de foot, va partir pour la Hongrie ce soir.
Oui, avant cela, petite séance d'entraînement cet après-midi, une séance à laquelle vous avez pu assister, Nicolas Georgerot.
Oui, sous le soleil et sur la très belle pelouse du centre d'entraînement du Bayern Munich. Certains d'ailleurs n'étaient pas dépaysés comme Coman, Tolisso, Pavard et Hernandez qui utilisent ces infrastructures au quotidien dans leur club. Séance légère pour les titulaires d'hier, Pogba, Griezmann, Kanté par exemple, qui trottinaient tranquillement avant de faire beaucoup d'étirements pendant que Loris, Mbappé, Benzema ont fait tout d'abord du vélo en salle. Ils sont passés entre les mains des kinés ensuite pour estomper la fatigue au maximum, accentuer la récupération après ce match d'une grande intensité. Une opposition entre les remplaçants à 7 contre 7 a occupé la majeure partie de l'entraînement. Dembélé et Lemar se sont mis en évidence, le tout sous les yeux d'un Didier Deschamps très attentif. Les Bleus vont quitter maintenant Munich d'ici une heure et arriveront vers 20h15 à Budapest. Installation et dîner dans leur hôtel au cœur de la capitale hongroise.
Nicolas Georgerot à Munich pour RTL. Hongrie-France, on le rappelle, hein, ce sera samedi donc à 15h. Cet après-midi, la Russie a battu la Finlande 1-0 et se relance ainsi dans la course au 8e de finale de 7 euros.
Et en ce moment même, la Turquie joue contre le Pays de Galles, ça fait à peu près un quart d'heure que ça joue et il y a toujours 0-0. Ce soir, il y aura Italie-Suisse et puis tout ça est à suivre dans RTL Foot spécial Euro à partir de 20h45.
Le match des Bleus hier marqué, on vous en a parlé par cet incident, un ULM de Greenpeace qui a survolé le terrain. Eh bien, on apprend ce soir que cet engin a bien failli être abattu par les tireurs d'élite, Léo Boer-Potier.
Un acte inconsidéré et irresponsable. Selon le ministre bavarois de l'Intérieur, si les tireurs d'élite n'ont pas abattu le pilote, c'est parce qu'ils ont vu la mention Greenpeace sur la toile de parachute. Un acte illégal de la part de l'ONG, d'autant plus, selon le ministre, que l'espace aérien au-dessus et aux alentours du stade était bouclé à 5 km à la ronde en cette soirée de match. Parmi les deux personnes blessées, on compte un Français, 36 ans, un prestataire de la chaîne M6, présent sur le bord du terrain, qui a pu rentrer en France. La deuxième victime est de nationalité ukrainienne et reste encore ce soir à l'hôpital pour des blessures à la tête et au cou. Quant au pilote de 38 ans, il fait l'objet d'une enquête et reste à la disposition de la police.
Léo Braur-Potier au micro, donc RTL, en Allemagne.
On va très haut dans le ciel. Oui, je me moque.
Bah oui, ça vous arrive aussi de...
d'accrocher un nom, ça arrive tous les jours. Amandine Bréjot. Nouvelle sortie dans l'espace pour Thomas Pesquet.
Oui, la troisième de sa carrière. La toute première de cette mission qu'il dirige, on le rappelle. Mmh. Ça a commencé en début d'après-midi et il y est toujours au moment où on se parle, Virginie Garin.
Oui, on l'entend là discuter avec son collègue américain Shane Kimbrough. Ça fait 4 heures maintenant qu'ils sont tous les deux dans le vide spatial. Thomas Pesquet est sorti en premier. Il a ouvert une porte ronde. On a d'abord vu ses pieds. Il s'est extrait tout doucement dans son scaphandre blanc qui pèse quand même 170 kilos. Alors ils doivent tous deux déployer un panneau solaire. Plusieurs caméras filment la mission. On voit au fond le bleu de la Terre. Les conditions sont extrêmes. Ils passent toutes les 90 minutes du noir total à une lumière éblouissante, de moins 120 degrés à plus 150. Ils progressent attachés à un câble, en s'accrochant à des rampes. Ils sont aidés par une ingénieure depuis la Terre. Thomas Pesquet a utilisé une visseuse spatiale pour fixer le panneau. C'est un travail épuisant et qui doit durer encore 2 heures. Une autre sortie est prévue dimanche pour déployer un second panneau et augmenter la puissance électrique de la station construite il y a maintenant 23 ans.
Récit signé Virginie Garin.
Merci beaucoup à vous, Amandine, et à tout à l'heure. Et si on ralentissait un peu, si on prenait le temps, si on arrêtait de courir, et si on prenait le train, la première start-up ferroviaire va se lancer avec l'ambition de nous faire voyager de nuit. Son fondateur s'appelle Adrien Aumont et il est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il paraît que ce ne seront pas des trains de nuit, mais des hôtels sur rail. Adrien Aumont, fondateur, co-fondateur de la toute nouvelle compagnie Midnight Trends, est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Adrien Aumont.
Bonsoir Thomas Soto, bonsoir à toutes et à tous.
On dit Midnight Trends ou Midnight Train ?
Midnight Trends.
Midnight Trends, ok, on anglicise tout ça.
Mais oui.
Alors, dès la fin 2023, vous allez lancer votre compagnie de train de nuit pour proposer aux voyageurs des Paris-Rome, des Paris-Madrid, des Paris-Porto, des Paris-Barcelone, des Paris-Copenhague, des Paris-Berlin, des Paris-Édimbourg. Donc, vous savez que tous les Français ne partent pas de Paris systématiquement, vous êtes au courant ?
Oui, mais heureusement, la SNCF est là, il y aura des correspondances.
Oui, mais ça partira toujours de Paris chez vous.
Écoutez, pour l'instant, ça part toujours de Paris. On espère après, si on arrive à bien se développer, créer des hubs à d'autres endroits en Europe et puis peut-être faire partir des trains en partant de Lyon, de Bordeaux, de Marseille. On se concentre déjà sur le hub parisien, qui est un très beau hub et qui nous permet d'adresser des très beaux marchés en Europe, des très grandes villes.
Pourquoi ce pari du train de nuit, c'est un marché fragile, c'est un modèle risqué, on le sait, c'est pas simple, il y a un des opérateurs, Tello, qui va pas très bien.
Écoutez, Tello n'avait qu'une seule ligne. Il faut pouvoir développer plusieurs lignes et avoir un vrai network pour pouvoir avoir un joli modèle économique. Cependant, on a besoin de train de nuit. Ouais. Le train de nuit et le train est peut-être le seul outil, le seul moyen de transport qui nous permet d'aller entre 800 et 1500 km et donc de pouvoir concurrencer l'aviation commerciale moyen courrier qui est en quasi situation de monopole.
Même si vous n'êtes pas sur une course à la vitesse avec eux.
On n'est pas sur une course à la vitesse, on prend le temps, mais vous partez à 20h, vous allez arriver à 9h à la ville de destination. Pendant ce temps-là, vous allez dormir et vous allez avoir 4 heures éveillées pendant lesquelles on va vous offrir un bar. Un restaurant.
Ouais.
On espère vous proposer une bonne table pour qu'on puisse enfin bien manger dans un train, bien boire dans un train. Et puis la nuit sera confortable puisque notre parti pris est de vous proposer que des couchages privatifs, des chambres avec des bonnes literies, comme à la maison, comme à l'hôtel, vous permettant alors, d'avoir une nuit.
Comment vous installez ça c'est quoi, vous allez acheter des corails ? Comment on fait rentrer ? Parce qu'on voit les photos, les chambres sont magnifiques, évidemment, on se croirait dans un hôtel. Mais comment vous faites rentrer ça dans un train ? Quel genre de train vous allez avoir ?
Écoutez, on va avoir des trains qui ressemblent en effet aux trains corail, qui sont issus d'une norme qu'on appelle UIC ou STI, qui sont une norme de train, de voitures voyageurs. Vous avez des compartiments aujourd'hui, vous en avez à peu près 10 par voiture. La SNCF ou d'autres opérateurs mettent 6 personnes par compartiment ou 4 personnes. Nous, on va pouvoir mettre une famille de 4 personnes ou un groupe d'amis de 4 personnes, mais on va aussi pouvoir mettre un couple de 2 personnes ou alors couper ces espaces pour faire rentrer des gens dans des sortes de chambres qui sont des capsules hôtels et vous allez pouvoir dormir en solo, en toute intimité. Donc vous savez.
L'idée, encore une fois, c'est que chacun ait sa chambre. Vous allez acheter des rames ou pas ? Vous allez louer des rames ? Comment
alors,
ça va se passer ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait acheter des rames par des sociétés de leasing, qui sont des banquiers du ferroviaire, qui ensuite nous louent ces rames chaque mois et chaque année. Voilà le modèle.
Et vous allez en acheter combien ?
On va acheter 2 rames pour commencer, puisque fin 2023, donc début 2024, sur le service annuel 2024, nous allons lancer une première ligne avec 2 rames qui partira tous les soirs d'un côté et de l'autre de l'origine destination. Et puis on a
et
le
c'est
souhait...
quoi les deux premières destinations ? Alors, ça sera quoi ?
Je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais ça sera en tout cas dans le sud de l'Europe, et ça sera ou l'Espagne ou l'Italie.
D'accord.
Et puis dans les années
donc,
qui
Barcelone,
suivront...
Donc Barcelone, Madrid ou Rome, quoi, en gros ?
Oui, Venise, Milan et Florence.
D'accord.
Voilà, ou un petit peu de tout ça. Et par la suite, nous avons pour ambition de sortir 3 lignes supplémentaires dans les années qui suivent, ou 5 lignes supplémentaires en fonction de notre succès. Il faut réussir à déployer, il faut réussir à faire un bon network en partant de Paris.
Vous avez quel budget pour lancer tout ça ?
Écoutez, à partir du moment où l'actif, c'est-à-dire les rames, sont prises en charge par des banquiers du ferroviaire qui vous relouent ce matériel, ensuite, vous avez besoin de lever de l'argent comme n'importe quelle autre start-up pour l'entreprise, pour qu'on puisse exploiter. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui.
Oh bah
je vous donne un exemple, parce que les gens s'en foutent de leur parler d'argent comme ça.
Non, je vous pose la question, la simple rénovation des 51 voitures de Paris-Nice, la SNCF, qui ne propose pas des chambres de luxe, loin de là, c'est plus de 50 millions d'euros, et auquel il faut ajouter 50 millions pour l'accueil des voyageurs.
Bien sûr, mais là, vous parlez de l'actif, vous parlez des voitures. Ouais, ouais. Donc ça, une voiture, ça coûte entre 2 millions et 2 millions 6. Donc ça, c'est par voiture. Moi, il m'en faut 34 pour commencer ma première ligne. Ensuite, il me faut de l'argent pour recruter des équipes, des équipages et lancer ces trains. Je vous prends un exemple. Cet homme qui a 20 ans a créé cette compagnie d'aviation Orange. Ouais. Il a commencé avec 2 avions en leasing et avec 5 millions d'euros. Avec comme ça, il est devenu EasyJet. Voilà. Bah, moi, c'est une source d'inspiration. C'est plus difficile de faire rouler des trains que de faire voler des avions, mais c'est comme ça qu'on arrive à s'ouvrir l'imaginaire et se dire qu'on peut le faire.
Vous visez quelle clientèle ? C'est les bobos fortunés ou c'est les familles ?
Non, on a pour but, on n'a pas envie de faire une compagnie de luxe, ni haut de gamme. On a envie de redéfinir...
Un Paris-Rome ou un Paris-Venise, ça sera combien à peu près ? Vous savez déjà ou
pas ? Eh bien, on doit être compétitif face à l'aviation, qui a ses prix les plus bas depuis son histoire. Un vol transfrontalier, aujourd'hui, en moyenne, c'est 90 euros. D'accord. Pour ajouter à ça les 45-55 euros de bagages,
plus
le transport de la ville de départ à l'aéroport et de l'aéroport d'arrivée à la ville de destination, et vous avez la fourchette de prix dans laquelle on va se situer sur le prix moyen chez Midnight Trends.
Donc vous serez compétitif. Il faut recruter du personnel, vous venez de dire. À bord du train, il en faut, c'est vrai, du personnel.
Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train Intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice-Ville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre.
Alors, je ne vais pas vous demander si vous allez embaucher Jean Castex, qui s'est essayé au job de chef de cabine il y a quelques jours lors d'inauguration du Paris-Nice.
Plutôt réussi.
Il sera peut-être dispo, hein, ça dit, fin 2023. Mais plus sérieusement, est-ce que vous allez embaucher beaucoup de monde ? Quand ? Combien de personnes ?
Alors, sur le personnel navigant, pour une ligne, il faut à peu près entre 45 et 55 personnes. Ces gens viendront peut-être du ferroviaire, peut-être de l'aviation, peut-être de l'hôtellerie, de la restauration. Sûrement un mix de tout ça, pour essayer de réinventer le service à bord. On va faire beaucoup de formations, peut-être une école. Il faut qu'on redonne les lettres de noblesse à ces métiers-là.
Vous voulez créer tout l'écosystème, donc l'école qui formerait le personnel qui serait à bord des trains.
On aimerait réussir à faire ça pour monter d'un niveau le service.
Et c'est à partir de quand ça, les embauches, ça c'est un peu plus tard j'imagine.
Ça c'est à partir de, il faut commencer un an avant le démarrage de la ligne.
Ah donc ça vient vite.
Oui ça vient vite, c'est pour ça qu'on a l'impression que 2024 c'est dans très longtemps. Mais en fait c'est pas dans très longtemps pour monter un projet aussi ambitieux. Et puis finalement 2018 c'était il y a pas longtemps non hein. Donc le temps passe vite, mais quand vous entreprenez vous avez besoin de temps pour bien faire les choses.
Et des liaisons nationales, il n'en est pas question jamais?
Non, on dit pas jamais, parce que c'est le Paris-Nice est très intéressant. Le Paris-Toulouse qui pourrait bifurquer vers le Pays Basque est très intéressant aussi. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à proposer des trains là où il n'y a que l'avion. Parce qu'on veut être une alternative et parce qu'on est aussi une entreprise avec une volonté d'impact.
Merci beaucoup Adrien Aumont d'être venu nous présenter Midnight Trends, hein, comme on dit, et longue vie donc à Midnight Trends, merci beaucoup.
Merci à vous.
À suivre, l'œil de Valérie Trierweiler qui ce soir ne va pas se contenter de parler aux futurs abstentionnistes des régionales dimanche prochain. Elle a décidé de le réécrire, ça risque de lui coûter cher en timbre.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et fini le masque obligatoire à l'extérieur et ce, dès demain, Jean Castex l'a annoncé tout à l'heure. Alors attention, il y aura toutefois quelques exceptions, les marchés, les files d'attente ou encore les grands rassemblements. Mais pour le reste, on va pouvoir enfin revoir les sourires. Terminer aussi le couvre-feu, ça ce sera seulement à partir de dimanche. Cet assouplissement intervient avec 10 jours d'avance. En raison, explique le Premier ministre, de la situation sanitaire qui s'améliore plus vite que prévu. Le nombre de contaminations est au plus bas depuis août 2020. Dans l'actualité également, le mari de Delphine Jubilard en garde à vue ce soir, 6 mois jour pour jour après la disparition de la jeune femme, infirmière et mère de 2 enfants. Il a été interpellé cet après-midi. Sa mère et son beau-père sont eux aussi en garde à vue. Et puis à Bastia, l'ex-compagnon de Julie Douib a lui été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine rarissime dans les affaires de féminicide. Bruno Garcia se voit également retirer son autorité parentale sur les 2 fils du couple, mesure destinée à protéger les enfants, a expliqué la présidente.
La météo, Peggy Broche, demain, toujours de la chaleur, mais attention, des orages.
Des orages, et on a des départements en vigilance orange, donc 28 en vigilance orange orage, et le Rhône est en vigilance orange canicule. Demain matin, petite accalmie, avec du soleil sur les 3/4 du pays, sauf sur la Bretagne, Normandie et le sud-ouest. Là, le ciel sera couvert, quelques averses, et ça tournera à nouveau à l'orage. Depuis l'Aquitaine, en remontant vers le Poitou, l'Île-de-France, attention, parce que ces orages sont violents, avec de fortes pluies et de la grêle. La Bretagne et la Normandie seront à l'écart. Il fera beau à l'est. Juste une petite averse en montagne et des températures très contrastées, de 18 à Cherbourg à 36 à Strasbourg.
Merci à vous, Peggy. L'œil du mercredi, c'est l'œil de Valérie Trierweiler. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Thomas.
Ce soir, vous avez choisi de nous parler des Français qui ne vont pas se déplacer dimanche, qui ne vont pas aller voter pour les élections départementales et régionales.
Oui, en fait Thomas, je ne veux pas parler des abstentionnistes, mais aux abstentionnistes.
Votre message aux abstentionnistes.
Voilà, donc enfin, on va commencer par le début. Vous savez, en France, il y a plus de 45 millions de Français inscrits sur les listes électorales, soit 88% de la population en âge de voter. Alors, il n'y a rien à faire pour les 5 millions qui ne sont pas inscrits. Hein.
Ouais, mais pour les autres, ça fait du monde quand même.
Ça fait du monde. On prévoit même une abstention record de plus de 50%. Ça ferait environ 20 millions d'électeurs qui se passeraient de ce droit fondamental. Alors à vous, électeurs potentiels, que vous soyez de droite ou de gauche, ça c'est pas la question, mais sachez que vous avez une mine d'or entre les mains, ça s'appelle un bulletin de vote et c'est le signe de votre appartenance à la République. Et ça fait de vous l'égal de votre voisin. Et puis même l'égal de Bernard Arnault. Vous savez, la première fortune de France, l'homme le plus riche. Mmh. Eh bien, vous êtes égal à lui parce que vous avez la même possibilité de déposer un bulletin de vote. Vous êtes aussi l'égal de Patrick Bruel.
Patrick Bruel.
C'est très à la mode en ce moment de citer Patrick Bruel.
C'est Nicolas Sarkozy qui l'a cité hier au procès du Malian.
Exactement. Ben oui, oui, une voix égale une voix. Vous aurez donc autant de pouvoir que quiconque.
Ah oui, carrément. Bon. Mettez tout pour aller faire voter les gens quand même. Et vous pensez que cet argument et cette petite musique va suffire à convaincre les récalcitrants ?
Je vais vous trouver d'autres arguments, Thomas, parce que vous savez, vous, électeurs, je m'adresse à vous, les électeurs potentiels, vous avez encore la possibilité de faire mentir les prédictions des sondages. Alors, je comprends que ce soit compliqué, les compétences entre les départements et les régions, c'est parfois difficile à identifier. Mais vous, électeurs, vous avez le pouvoir d'agir sur les choix politiques et vous avez aussi le pouvoir d'agir sur votre vie quotidienne. Par exemple, vous, électeur potentiel, vous le savez peut-être pas, mais qui décide de votre facture d'eau ? C'est le département qui choisit le fournisseur. Donc, si vous voulez faire baisser votre facture d'eau, vous regardez le choix des candidats. Oui, oui, je vous assure, vous avez cette possibilité.
Il n'y a rien à dire. Bon, ce scrutin, ça dit, se résume pas complètement au problème de facture d'eau.
Non, bien sûr, Thomas, mais vous, électeur, sachez que si vous avez un enfant au collège, le département le prendra en charge. Alors, à vous aussi de regarder quel candidat va renforcer les moyens sur ce domaine. Si votre enfant est au lycée, ce sera la région. Et puis, vous, électeurs potentiels, qui bénéficiez d'aide sociale, savez-vous que c'est le département qui finance le RSA ? Et là, je rappelle que le nombre de bénéficiaires a explosé. Il est passé à près de 2 millions. Alors vraiment, vous, électeurs, vous vous en fichez vraiment de tout ça ? Eh bien non, on ne s'en fiche pas. Peut-être vous avez même un parent en EHPAD, peut-être même un petit à la crèche. Alors là, c'est encore le département qui finance. Alors bien sûr, on peut faire mieux. Alors à vous de choisir celui qui propose mieux.
Vous, électeurs, qu'est-ce qui vous a appris l'anaphor comme ça, Valérie ? Non, rien.
C'est devenu très à la mode aussi.
Ah, c'est ça. Hein. C'est sûr, ça fait quelques raisons de se déplacer, en tout cas, tout ça.
Mais oui, et puis c'est pas tout, Thomas. Je vous ai pas parlé du sport. Ça vous intéresse, le sport ?
Ah bah, bien sûr. Ah,
c'est la région qui finance ça, enfin, avec le département. Je ne vous ai pas parlé de la culture, du tourisme, de la formation professionnelle ou encore de l'aide aux entreprises et surtout des transports qui représentent 24% du budget des régions. Alors vous, électeurs potentiels,
vous qui avez prévu un barbecue
dimanche, sachez d'abord qu'il y aura de l'orage, n'est-ce pas Peggy ? Il y aura de l'orage dimanche.
Exactement.
Hein, donc ce ne sera pas difficile de trouver 10 minutes pour agir sur le cours de votre vie. Allez, faites l'essai, vous verrez. Vous pouvez même faire une procuration si vous allez marier vos amis à l'autre bout de la France. C'est mon cas, j'ai fait ma procuration. Et puis, je vous parle même pas du rôle que vous pourrez avoir sur la prochaine élection, la présidentielle.
Merci à vous, Valérie Trierweiler. Et on va saluer votre maman, Janie, qui est là aujourd'hui.
Oui, elle m'accompagne. Mignonne.
Elle est toute sympathique, elle est toute chaleureuse, on l'embrasse. Voilà, c'est pas très Covid, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Dans un instant, ça sera la culture de l'actu avec Julia Molcou.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
18h38, le bac c'est demain pour les candidats, mais c'est tout de suite dans la culture de l'actu avec Julia Molcou, qui va encore décrocher une mention très bien. Bonsoir Julia.
Ah, vous êtes sympa, bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Oh mais qu'est-ce qui se passe Bruno, ça fait une semaine qu'on ne t'a pas vu et tout d'un coup tout le monde doit se mettre à ta disposition parce que tu révises le bac.
Ah ouais, je révise le bac, ouais. Ça fait chier, moi aussi ça me fait chier, vous me faites chier.
Ouh là 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 là, les révisions du bac, ça peut mettre les jeunes dans tous leurs états. Parce que si avoir le bac, c'est pas avoir grand-chose, ne pas l'avoir en revanche, ça complique vraiment la vie. Enfin, c'est ce qu'on nous a répété beaucoup. Et pourtant, connaissez-vous le point commun entre Guillaume Apollinaire, Émile Zola, Sacha Guitry et André Malraux ?
Bah là, on le voit venir du coup, hein. Ils n'ont pas le bac.
Et ben voilà, ouais. Aucun d'entre eux n'a eu son bac, mais attendez, j'ai mieux. Sacha Guitry a été viré de 11 lycées différents pour des problèmes de comportement. Et à l'époque, quand on changeait d'établissement, on redoublait. Ce qui fait que Guitry a redoublé sa sixième 10 fois et qu'à 18 ans, il était encore en sixième. Là, il a préféré jeter l'éponge.
C'était raisonnable.
Oui, je crois. Quant à André Malraux, qui arrêta ses études à 17 ans, ça ne l'empêchera pas de recevoir le prix Goncourt, de devenir l'un des plus grands écrivains du XXe siècle et même ministre de la Culture. Conclusion, rater son bac, ça ne veut pas dire rater sa vie. Anne-Philippe, 1964. Alors évidemment, le bac, c'est aussi un sujet de cinéma. Chez Maurice Pialat, passe ton bac d'abord, ne fais pas le poids face au bistrot et aux copains. Chez Cédric Clapiche, Thomasy, Bruno, Chabert et Momo sont infernaux, c'est le péril jeune par ici. Y a-t-il pire que les élèves du lycée Jules Ferry ? Bah oui, il y a les profs, chez Pierre-François Martin Laval. Enfin, chez Claude Zidi, les élèves sont sous-doués et ratent leur bac chaque année.
Enfin, j'ai pour mission de vous transformer en bachelier. Aucun diront, mission impossible. Je relève le défi et je gagnerai.
Sans cas, Julien, recalé.
Les gogres ! Ils l'auront, leur bachoumi, ils l'auront.
Et dans la musique, la chanson, le bac, ça donne quoi dans
Alors,
la
bah, ça donne une première place au hit parade pour Claudine Coppin avec son titre Le Twist du bac.
On vient m'appeler pour une partie. Désolé, je réponds, je nie. Vraiment, non, je ne peux pas. Moi, j'ai le bac dans un mois.
Le bac dans la chanson, c'est aussi une polémique en 1992 pour Michel Sardou avec Le Bac G.
Vous passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle, des horizons bouchés.
Alors à l'époque, Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale. Il sera horrifié par le manque de considération que Michel Sardou porte à la filière technologique, le fameux bac G. Mais il se refusera à débattre avec, je cite, un saltimbanque. Enfin, parfois, ce sont des chansons qui font office de sujet au bac, comme en 2005 avec ce titre de Pierre Perret.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily.
Dans en 2012, c'est un texte de Jean Ferrat, « Je ne suis qu'un cri » qui fut retenu. Et en 2013, enfin, ça y est, il était là, sous les yeux des élèves qui devaient, en s'appuyant sur le texte, répondre à la question suivante. Peut-on construire son identité en restant dans sa famille, dans son pays, ou est-il nécessaire de partir ? Vous avez 4 minutes 48.
Là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage.
Ça me donnerait presque envie de travailler pour avoir le bac, dis donc.
Je crois aussi.
Je rappelle que tous les sujets les corrigés du bac seront sur rtl.fr. On les met pas ce soir parce que les profs c'est demain, mais dès demain ils y seront. Hein. Je suis très embêté parce qu'on est déjà un peu en retard et quand même c'est Jean-Jacques Goldman là-bas. Hein,
couper Jean-Jacques.
Non,
on peut pas. On va demain.
Là-bas. Avec Sirima.
Magnifique.
Faut du cœur, faut du courage.
Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi.
Bravo.
Jean-Jacques accélère en retard. En fait, c'est qu'on va annoncer la suite en gardant Jean-Jacques en fond de sauce. À 21 ans, elle sort un film qui est déjà marquant et pas seulement parce qu'elle l'a écrit, réalisé et qu'elle y interprète le rôle principal. Suzanne Lindon à l'affiche depuis ce matin de 16 printemps et l'invité d'RTL Soir. C'est tout de suite et c'est en direct.
C'est pour ça que j'irai là-bas.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Son film 16 printemps est sorti aujourd'hui et quand on dit son film, ce n'est pas usurpé puisqu'elle en est la scénariste, la réalisatrice et le premier rôle, la très étonnante Suzanne Lindon est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Suzanne Lindon.
Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir.
Ce film d'une sensibilité rare, presque impudique, c'est le vôtre à vous toute seule et il est un pont, celui que jette une adolescente vers l'âge et le monde des adultes. Vous avez commencé à l'écrire il y a 6 ans, vous aviez alors 15 ans, qu'est-ce que vous aviez envie de raconter à ce moment-là?
Ben, en fait, il y a eu deux choses qui se sont un peu superposées. D'abord, c'était mon envie de faire du cinéma. Et à ce moment-là, j'avais surtout envie d'être actrice.
Ouais.
Et j'avais besoin de me sentir légitime parce que je viens d'une famille d'acteurs. Donc, il a fallu que je trouve une chose en plus, un truc supplémentaire qui justifie mon envie. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est l'écriture. Il faut peut-être que je m'écrive un rôle pour me sentir confortable.
C'est super audacieux de se dire, il faut que je sois légitime pour être actrice, du coup je vais écrire, je vais réaliser et je vais jouer le premier rôle. Ça a été facile pour vous d'être actrice dans votre propre film ?
Ça a été facile, je sais pas, mais en tout cas, tellement libérateur pour plein de choses que ça a été assez évident. C'est-à-dire que je pense que je l'ai fait inconsciemment parce que j'étais très jeune et parce qu'aussi j'étais entourée d'une équipe où on se portait tous les uns les autres et on avait tous la même énergie. Et bizarrement, le faire dans une sorte d'urgence parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens et tout ça, ça m'a fait suivre mon instinct parce que j'avais pas le temps de me poser des questions. Donc je me suis pas vraiment posé la question de... est-ce que je vais réussir à faire tout en même temps et à être actrice ? Je l'ai fait, quoi.
Dans 16 printemps, vous êtes Suzanne. Vous tombez amoureuse d'un homme de 35 ans alors que vous en avez 16. Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux, finalement, avec Arnaud Valois qui joue remarquablement bien ?
Ce qui nous rapproche, en tout cas, moi, ce que j'avais envie de raconter, c'est vraiment l'histoire de l'ennui et de la solitude de deux personnes.
C'est deux solitudes, hein ?
Ouais, c'est deux solitudes et c'est deux êtres qui sont pas au même endroit de leur vie, un peu marginaux, et qui se trouvent, en fait. Et j'avais vraiment envie de parler d'une rencontre, mais à l'état le plus pur possible, c'est-à-dire deux personnes qui se connaissent pas, qui ont aucune information l'un sur l'autre, et qui se rencontrent parce qu'ils vivent et ressentent la même chose. Mmh. Et c'est ma définition de la rencontre amoureuse, quoi.
La rencontre, c'est le mot-clé, parce que ça, c'est une vraie rencontre, hein, une rencontre rare, comme on en fait sans doute peu dans sa vie. On a l'impression qu'ils se disent qu'ils ont une chance incroyable de s'être trouvés, et en même temps, c'est une rencontre qui peut déranger entre une ado et un adulte. C'est à la fois très joli et très politiquement incorrect, surtout dans cette époque où les scandales se succèdent. Honnêtement, quand on regarde le film, et moi je le dis sincèrement, on ne perçoit rien de malsain. Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup d'élégance, il y a rien de dérangeant. Et qu'est-ce que vous répondez malgré tout à ceux qui vont vous attaquer sur le sujet, qui vont dire « Oh là là, 16 ans, 35 ans ?»
Moi je suis consciente évidemment que 16 ans, 35 ans, c'est grave.
Ouais.
Mais j'ai voulu dans le film le montrer justement le plus sainement possible parce que en fait c'est une histoire d'amour complètement platonique et si le terme amoureux dérange ce que je peux comprendre, c'est pour ça que je parle de rencontre, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment deux univers qui se trouvent et c'est pour ça que l'âge dans le film, j'avais envie que ce soit une convention, c'est parce que c'est vraiment deux personnes qui n'arrivent pas à vivre à ce moment-là de leur vie leur âge et qui se trouvent, ils auraient pu être amis d'ailleurs, rien de grave ne se passe entre eux et ils sont amoureux l'un de l'autre mais de l'idée qu'ils se font l'un de l'autre.
Alors Suzanne dans le film, elle aime le Diabolo Grenadine, elle aime les silences, elle est aussi un peu mélancolique, hein, on le voit. Vous l'êtes aussi, vous aussi, dans la vraie vie ou pas ? Parce que, pour tout vous dire, moi je vous suis sur Instagram hyper joyeuse, hyper pétillante et dans le film on se dit, oula.
Je pense que c'est les aléas, c'est les montagnes russes de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on peut passer par tous les états, que rien n'est sérieux, mais que tout est grave. Mmh. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le film, c'est-à-dire que tous les chagrins sont immenses, toutes les joies sont décuplées, et dans le film, cette jeune fille, elle est un peu à côté des autres, et donc j'avais envie de raconter l'adolescence, et en même temps qu'elle est un état un peu continu, qui soit cette mélancolie-là. Et
on a l'impression que c'est elle l'adulte, en fait. Dans l'histoire, on a l'impression que c'est elle la patronne, entre guillemets.
Et ouais, mais parce que j'avais envie de montrer cette jeune fille patronne aussi, puisque c'est important pour moi, qui était jeune fille, enfin qui suis toujours jeune fille, quand je l'ai écrit, le film, c'était important justement de montrer une jeune fille qui est décisionnaire et qui décide justement de ne pas se forcer à être bien dans un groupe et qui s'accepte elle-même telle qu'elle est. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire adolescente, c'était de m'accepter. Je pense que c'est dur, mais que quand on y arrive, c'est une force, quoi.
Alors, vous êtes Suzanne Lindon. C'est déjà énorme d'être Suzanne Lindon. C'est déjà impressionnant d'être Suzanne Lindon. Et quand on regarde le film, on peut pas s'empêcher de penser, pardon, à Charlotte Gainsbourg, celle des débuts, dans le style, dans le look, dans la façon d'être un peu effacée. D'abord, est-ce que c'est voulu ?
Non, alors, c'est pas voulu. Moi, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est... D'abord, c'est un film que j'ai adoré. Moi, je pense à L'Effronté, c'est un film que j'ai...
On peut pas ne pas penser à L'Effronté quand on voit ce film.
Et bizarrement, moi, quand j'ai fait le film, j'y pensais... j'y pensais pas comme une volonté de reproduire ou d'imiter, ou même comme une sorte d'hommage. Après, quand on me dit que je lui ressemble, ça me fait plaisir, mais c'était pas voulu. J'espère maintenant...
Sauf que Suzanne, c'est une Charlotte qui ose tout.
Ouais, puis j'espère maintenant que je vais pouvoir me détacher de ça. J'imagine que je vais faire en sorte que oui, mais c'est... Après, c'était un film justement sur une jeune fille. C'était une jeune fille de cinéma, le rôle de Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté, qui m'a marquée. Donc inconsciemment, je pense que ça m'a nourrie, quoi.
Ce film, c'est aussi un univers musical avec notamment trois chansons de Christophe. Il y a Señorita.
Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata.
Il y a Les Marionnettes.
Moi, je
Cette version-là.
Oui.
Très émouvante version de marionnette. Et puis il y a Dolce Vita.
Piège était facile. Tu es tombé dans mes bras.
Alors, il y a quelque chose qu'on comprend vite chez vous, c'est que rien n'est gratuit, rien n'est là par hasard. Pourquoi ces musiques-là à ce moment-là dans le film ?
En fait, la musique, ça a pris une place très très importante dans le film parce que moi, je sais que les films qui me marquent, c'est des films dont la musique me travaille, quoi. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'il y ait la bande originale du film, qui est composée par Vincent Delerme, et qui est un thème que j'adore.
Que vous chantez, qu'on écoutera tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais.
Et puis, j'avais envie qu'il y ait la bande originale du personnage et de ses états d'âme et de sa famille aussi presque, parce que j'avais envie que ce soit des chansons qui soient complètement intemporelles. Et pour moi, Christophe, c'est ce qui représente le plus le romantisme. Et
vous le connaissiez, Christophe ?
Ouais, je l'ai rencontré, on était même un peu... Alors copains, je sais pas, parce que je l'ai pas connu longtemps, mais c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup parlé du film. Et en fait, on a travaillé ensemble parce que je lui avais montré le film. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, il a eu la générosité de me presque m'offrir les chansons qui sont dans le film.
Et les choix de ces versions, vous les avez fait ensemble, en fait ?
Non, ça c'est moi qui les ai choisis, mais quand ils étaient choisis, je les consultais. Et Christophe, ça a été un des premiers à voir le film. Et c'est pour ça que ça m'émeut quand je l'entends, parce que je me rends compte, en fait, petit à petit, qu'il me manque, enfin, comme il manque à tous, mais il était rare, quoi.
De vos parents, on va parler de vos parents très rapidement, Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon, vous avez dit « Ils m'ont beaucoup aimé, regardé, écouté et m'ont donné confiance en moi et je vous en demanderai pas davantage sur le sujet. » Ce film, vous l'avez fait sans eux, sans les impliquer. Vous avez même quitté le nid familial quand vous êtes lancé dans ce projet pour que la frontière soit étanche. Mais quand même, est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment « Je vais en reprendre plein la figure, on va constamment me ramener à ça. » Est-ce que ça vous inquiétait, ça ?
Mais ça m'inquiète encore, mais en même temps, c'est normal et je peux jamais en vouloir aux gens de penser ça bizarrement parce que évidemment c'est le raccourci le plus simple et le plus évident à faire. C'est pour ça que moi je me suis dit que si moi j'étais en paix avec moi-même, que j'étais consciente que j'avais travaillé pour faire ce film et que j'étais sûre de moi, alors je pouvais encaisser toutes les critiques. Et aujourd'hui c'est vrai que ça me donne de la force parce que
c'est un film qui vous fait devenir vous-même, en fait.
Ouais, en tout cas c'est comme une ma psy, elle dit que c'est une deuxième naissance.
Je ne suis pas votre psy, je n'ai pas d'avis là-dessus. On a entendu Christophe chanter Suzanne Lindon. Vous aussi, vous chantez, je disais, le générique de fin. Une chanson composée pour vous par Vincent Delerme.
Et je traîne au bord de la ville. Un appartement, une soirée.
Honnêtement,
j'attends les choses.
C'est parfaitement réussi. C'est-à-dire qu'on plonge dans chaque... Il y a le Stabat Mater de Vivaldi, ouais, qui est somptueux. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter maintenant ? Ça va être quoi, la suite, pour vous ?
Bah, la suite, elle est vertigineuse. Là, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est le jour de la sortie. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de suite. Je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas tellement...
Ça vous stresse aujourd'hui, le...
Non, ça ne me stresse pas, mais c'est... J'ai le trac de... En fait, j'ai envie de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Et comme je suis très jeune, je sais que la route est longue et que rien n'est gagné jamais. Et en même temps, c'est ça qui m'excite et qui me donne envie de continuer. Donc j'espère que je ne vais pas me contenter de ce que j'ai fait.
Ce n'est pas un terminus, c'est un point de départ.
Ouais.
Merci Suzanne Lindon d'être venue dans RTL Soir. Votre film 16 printemps est sorti aujourd'hui. C'est pas mon boulot, mais je vais vous dire ce que j'en pense. C'est un film à combustion lente, en fait. Au début, on le regarde, on se dit ok. Et plus ça passe, plus on y réfléchit, plus on y repense. Et après, on se dit ah ouais, allez le voir, laissez-vous porter. Et peut-être que vous aurez comme moi envie d'aller le revoir. Merci beaucoup à vous, Suzanne Lindon.
Merci à vous.
Et encore quelques notes de vous qui chantez.
Merci.
Après ça, Peggy ne nous annonce pas du beau temps.
Oups.
Je ne comprends pas.